Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez les programmes de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Célébration ce jeudi 25 avril de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette commémoration intervient au moment où le MRTC annonce la disponibilité des vaccins contre la maladie dès l'année prochaine au Mali. Le comité d'experts chargé du programme national d'éducation aux valeurs a remis mardi dernier son rapport au président de la transition. Dans ce document, il est proposé des solutions aux problèmes qui minent la société. L'Union nationale des travailleurs du Mali prépare la fête du 1er mai et son congrès. En prélude à ces événements, elle a tenu son 19e conseil central au cours duquel ses responsables ont évoqué leurs difficultés. À la présentation de ce journal, Assetou Kanté, Philly Dambélé est à la technique. Le Mali a enregistré plus de 3 millions de cas du paludisme cette année. C'est ce qu'affirment les responsables du Programme national de lutte contre le paludisme. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce 25 avril. Pour les responsables de la structure, la morbidité est de 37%. Quant à la mortalité, elle s'élève à 24,4%. Mahaman Babakunta.
Le paludisme demeure l'un des principaux motifs des consultations dans les établissements de santé au Mali, souligne le Programme national de lutte contre le paludisme. Sa directrice, le médecin colonel Aïssata Koné, précise que cette année, les établissements de santé ont enregistré plus de 3 millions de cas confirmés de paludisme dans le pays. Et les couches les plus vulnérables restent les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La prévalence du paludisme varie d'une région à une autre. La zone la plus touchée est la région de Sikasso avec 27%, suivie de Ségou, Mopti et Koulikoro. Quant au vaccin contre le paludisme, le Mali a déjà préparé tous les dossiers et s'apprête à l'introduire à partir de 2025, affirment les responsables du Centre de recherche et de formation sur le paludisme MRTC. Pour un rappel, ces deux vaccins sont des produits de chercheurs maliens. Il s'agit du RTSS et R21 dont les tests ont eu lieu en 2027 et 2021 à l'unité de recherche clinique de Bougouni, Welesebougou.
La disponibilité de ces vaccins avait été annoncée pour cette année. Cependant, le professeur Alassane Diko, chef de l'unité de recherche clinique de Bougouni et de Welesebougou, indique que le retard au déploiement s'explique par l'insuffisance de la quantité produite. Toutefois, le médecin chercheur souligne que des efforts sont en cours pour que ces vaccins soient mis rapidement à la disposition de la population. Il est au micro de Mahaman Babakunta.
Pour le premier vaccin, le vaccin RTSS, nous avons démontré que le vaccin, si on le donne en début de saison de transmission, ça va réduire les hospitalisations qui sont dues au paludisme et les décès du paludisme de plus de 60%. Pour le deuxième vaccin, qui est le vaccin R21, nos résultats ont montré que si on donne ce vaccin-là aux enfants de 5 à 36 mois, on a une réduction au Mali de 80% des accès paludistes.
Le premier vaccin qui a été le vaccin TSS, la quantité produite était insuffisante. Mais le deuxième vaccin qui a été homologué est en train d'être produit en grande quantité. On s'attend à ce que dès l'année prochaine, en début d'année, que ce vaccin puisse être donc déployé au Mali.
C'était là le professeur Alassane Diko, chef de l'unité de recherche clinique de Bougouni et de Welesebougou. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le rapport du Programme national d'éducation aux valeurs a été remis au président de la transition le mardi dernier à Bamako. Ce document a été élaboré par un comité d'experts composé de 15 membres, mis en place en décembre dernier par le gouvernement. Son objectif, selon les responsables du comité d'experts, est de diagnostiquer les problèmes qui gangrènent la société malienne et d'adopter des stratégies permettant de mettre en œuvre des résolutions pour aboutir aux résultats escomptés. Plus de détails avec Alicissé.
Ce document composé de 84 pages comprend 11 axes d'intervention stratégique qui prennent en compte les maux dont le Mali souffre et les solutions pour l'aboutissement du Mali courant. Remis au chef de l'État cette semaine par le comité d'experts, ce document évoque le joug de l'asservissement néocolonial perpétuel dont le peuple malien doit se défaire pour accéder à sa pleine souveraineté. Ainsi, pour se libérer de la servitude et retrouver la dignité, le document recommande de redonner du sens à l'humain dans un monde perdu qui s'effondre dans la violence et la barbarie. Ce programme national d'éducation valeurs lancées par le président de la transition mettent aussi un accent particulier sur le respect de l'autorité, de l'ordre et du mérite.
12h passées de 5 minutes, je vous l'annonçais dans les titres. En prélude à son congrès prévu pour le 26 avril, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a tenu son 19e conseil central ce jeudi à Bamako. Selon les responsables, il s'agissait de partager le contenu du rapport moral des activités de 2019 à 2024. Toutefois, les responsables affirment qu'ils ont été confrontés à beaucoup de difficultés durant ce mandat marqué par la COVID-19. Yacouba Katilé, secrétaire général de l'UNTM, est au micro de Ali Mayatara.
Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du devoir de redevabilité à un moment donné. Nous devons rendre compte à nos militants. Ceux qui ont bien voulu placer leur confiance en nous, nous devons leur dire voilà ce que nous avons demandé comme tâche, voilà ce que nous avons pu exécuter. Et ce qui n'a pas été fait comme on voulait, qu'on puisse apporter également des éléments d'explication. Le bureau est responsable d'abord devant le conseil central et après avoir validé ensemble ce que le bureau a fait, le conseil central également sera responsable devant le congrès. Le congrès est prévu pour demain et après-demain. Mais au-delà, nous allons écouter également l'avis des militants par rapport à des questions, des préoccupations d'ordre général et ensemble lors des débats, ce qui sera arrêté en termes de recommandations et résolutions. Le nouveau bureau qui sera mis en place sera chargé d'exécuter les résolutions.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
On en vient à présent à notre dossier de la semaine. Avril est un mois de forte chaleur au Mali. Cette année, la canicule a coïncidé avec les coupures intempestives d'électricité. Les matériels de froid sont prisés. Toutefois, ces appareils sont le plus souvent en panne. Cette situation est une aubaine pour des commerçants et surtout pour les réparateurs de ces appareils. Le dossier de la semaine, c'est avec Fatoumata Kodjo.
Les réfrigérateurs, ventilateurs et humidificateurs sont aujourd'hui très prisés à cause de la forte chaleur, comme en témoignent ces réactions.
C'est pour chercher un humidificateur en cette période de chaleur, ça nous aide beaucoup.
Je suis venu chercher un ventilateur ou humidificateur. Les prix varient entre 10 000 et 12 500. L'humidificateur est vendu à 60 000, voire 65 000 francs. C'est cher. La chaleur impacte beaucoup mes enfants.
Je suis venu acheter un climatiseur. Donc avec la canicule, c'est pas évident. Nous avons des personnes âgées en famille. Il faudra faire tout pour les remettre à l'aise.
Souleymane Malé, comptable dans une boutique de froid au grand marché de Bamako, indique qu'il peut vendre une cinquantaine de matériels par jour. Les vendeurs préviennent que ces matériels ont besoin d'une utilisation particulière.
Là, nous sommes actuellement. Les clients viennent pour acheter les humidificateurs réchauffables et les ventilateurs réchauffables. Ils peuvent vendre pour les ventilateurs réchauffables 40 à 50 pièces. Mais pour les humidificateurs réchauffables, ça ne vaut pas 15 à 20 pièces. Dans la journée. Les produits là pour utiliser là, c'est pas facile parce qu'on explique à plusieurs personnes, toujours il y aura des problèmes pour l'utilisation.
Justement, ces matériels souvent bon prix et peu résistants profitent aux réparateurs car leur clientèle augmente. Toutefois, le délestage ne facilite pas le travail aux réparateurs.
Nous avons plus de clients avec la chaleur, on réfie certains matériels.
La clientèle est là, mais nous avons un problème d'électricité car on essaye et on répare le matériel avec ça. Tu peux bien travailler si tu as le groupe électrogène.
Les matériels que nous recevons ici sont tous endommagés à cause du délestage.
Quant aux clients, si certains sont satisfaits de leur service, d'autres par contre restent sur leur faim.
Je ne peux pas faire 2 à 3 jours sans appeler le frigoriste pour voir mon réfrigérateur.
Je suis venu ici pour réparer mon fer à repasser. Il n'y a pas d'électricité, ça fait mal. Mais ce n'est pas la faute du réparateur.
Les vendeurs et les réparateurs des matériels de froid et recommande aux clients de suivre les conditions d'emploi pour éviter les pannes.
Et c'est sur ce dossier qui prend fin cette édition. Mais avant, pour le grand dialogue de ce soir délocalisé à Bougouni, le thème est Bougouni, une région active culturellement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette édition. Pour écouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Tout de suite, le magazine. À cause de l'insécurité, plusieurs établissements scolaires restent fermés au sud, au centre et au nord du Mali. La problématique inquiète les élèves et leurs parents. Les acteurs de l'école préviennent que la fermeture permanente des écoles ont des effets négatifs sur l'apprentissage des enfants. Quelles sont donc les dispositions prises pour le maintien de ces enfants à l'école dans les zones de conflit? La réponse dans ce magazine Tous les enfants du Mali, il est réalisé par Fatih Yattara.
Des centaines d'enfants sont privés d'éducation dans la région de Tombouctou. Ces enfants rencontrés à Diré ont quitté leur localité depuis des années suite à la fermeture de leurs écoles par des groupes armés. Ils invitent les autorités à penser à leur situation.
Je suis élève de la 7e année. Mon village, c'est Sarayamou. Depuis 4 ans, il n'y a pas d'école dans mon village. Maintenant, nous sommes à Diréville, on souffre beaucoup. Nous ne sommes pas à côté de nos parents, nous voulons retourner.
Mon village est Tindirma. Jusqu'à présent, il n'y a pas que le terrorisme. On ferme la cour de l'école pour qu'il n'y ait pas de cours.
Les autorités maliennes donnent l'assurance. La direction nationale de l'enseignement fondamental affirme avoir entrepris beaucoup de dispositions qui renversent progressivement la tendance, déclare Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental.
Nous avons tenu des rencontres communautaires dans 11 régions qui ont permis de la réouverture de certaines écoles. Et nous pensons que la mise en œuvre des recommandations de ces rencontres communautaires doivent nous permettre à l'ouverture prochaine, en tout cas d'avoir un grand nombre d'écoles ouvertes en République du Mali.
Ces actions sont coordonnées et exécutées grâce au concours des académies, ajoute Mamadou Djigilay, chef section communication et partenariat de l'Académie d'enseignement de Ségou. Selon lui, ces mesures ont permis la réouverture de plusieurs écoles dans la localité de Dimbo, Sekoura, Kanibonzon et Balaguima dans la région de Ségou.
C'est les médersas seulement qui fonctionnent à Farakou. Mais nous avons développé des stratégies pour que les enfants puissent au moins avoir le minimum pour au moins faire les examens de fin d'année. Très généralement, à 3 mois des examens du DEF précisément, on déplace tous les candidats de Farakou à Ségou qui viennent pour un cours accéléré et après ils composent ici dans les différentes épreuves.
Ces opérations menées par les autorités sont soutenues par beaucoup de partenaires de l'État. C'est le cas de l'ONG l'Église norvégienne à Bankas. Daouda Koulibaly est un des superviseurs du projet.
Nous avons pu appuyer 100 jeunes adolescents 2 fois, qu'elles puissent vraiment fréquenter les espaces sanitaires. Et puis, les frais scolaires également, on les a appuyés, les fournitures scolaires, tenues, et puis voilà. Et une somme forfaitaire également.
Rien n'est de trop pour assainir l'avenir de nos enfants. Martel Guindo Diara Sissé, responsable de la CAFO, un autre organe qui soutient la question des enfants en zone d'insécurité.
Durant 2023, on a eu presque jusqu'à 7 ou 8 enfants comme ça. On a eu les activités de sensibilisation, les activités de prise en charge. Prise en charge surtout psychosociale et médicale.
Néanmoins, des pédagogues préviennent que le phénomène de la fermeture des écoles peut être source de troubles psychiques chez les enfants et met en mal le développement du pays. C'est l'avis de Sidi Barka, enseignant, chercheur et pédagogue à Menaka.
La situation de ces enfants est vraiment critique, en ce sens que les parents d'abord ne sont pas dans la capacité de les rendre des services. Vu le nombre qui est arrivé à Menaka, les écoles d'accueil aussi ne sont pas dans la capacité de les accueillir à souhait. Donc ça va empiéter sur le programme d'apprentissage.
Plus de 1700 écoles sont fermées à travers le Mali suite à l'insécurité qui sévit dans le nord, le centre et le sud du pays.